général de Gaulle, 18 personnalités adressent un message personnel aux auditeurs de France Inter. Tous ont vécu et subi la Seconde Guerre mondiale. Pierre Dumayet.
Tous les Français qui avaient l'âge de raison au mois de juin 1940 se souviennent du malheur général qui se voyait partout, dans le ciel et sur la route. Pour les civils, c'était un très vieux mot démodé qui avait retrouvé son sens, le mot « exode ». Je me souviens, 3 jours avant le 18 juin, j'étais à vélo avec un camarade, nous avions passé la Loire, nous finissions de doubler une longue queue de charrettes, de voitures roulant au pas de piétons, puis tout à coup nous nous sommes trouvés en tête du peloton, avec quelques autres cyclistes. Nous étions à la hauteur de Vierzon. Ici, c'est le calme. Nous traversons un village vide. Sur la place, il y a un restaurant. Des tables sont prêtes. Le couvert est mis. Et, ô suprême bêtise, je n'ai jamais rien vu d'aussi bête. Sur chaque table, une chaise est adossée, signifiant clairement que ces tables étaient réservées. « Parfaitement, monsieur, me confirme le maître d'hôtel. » Je lui dis « Vous risquez d'avoir 50 000, 100 000 clients aujourd'hui. » Ils arrivent à pied, il ne comprend pas. Je me répète, je n'ai rien vu d'aussi bête que ces tables réservées, alors que tout le monde sur la route devait avoir un peu faim. Si je vous raconte cette histoire idiote mais vraie, ce n'est pas par hasard. Je veux dire que l'appel du 18 juin est un appel à résister. Aujourd'hui, quelle leçon nous donne-t-il? Nous sommes en paix. Aurions-nous un ennemi? Oui, je crois. C'est un vieil ennemi. Il s'appelle la bêtise. Il me semble qu'il y a en ce moment une rage de ne pas savoir et une envie très forte de ne pas savoir. Tenez, l'année dernière, j'avais oublié, avant de partir en vacances, de prévenir le journal très respectable auquel je suis abonné de mon changement d'adresse. Donc, une fois à la campagne, j'appelle le service des abonnés, mon interlocuteur me donne en raison, et vous restez à la campagne jusqu'à quand ? Je réponds jusqu'à la Toussaint. Silence, puis le monsieur me dit « C'est quand la Toussaint ?» Cela me rappelle une phrase que j'aime bien. La voici. « Les pays sans les gens sont condamnés à mourir de froid. Moi, je suis comme vous. Je n'ai pas envie de mourir de froid. »
C'était Pierre Dumayet, 88 ans, légende de la télévision française. Il souhaite qu'on le présente comme bonhomme de télévision. Vous pouvez retrouver tous ces témoignages sur notre site franceinter.com.
Ici, Radio France Londres. Londres. 70 ans après l'appel du 18 juin, France Inter vous propose 18 heures de programme,
18 heures de programme
en direct de Londres.
C'est uniquement l'espoir de vaincre qui soutient l'effort des peuples.
À 16h, la musique classique sur les radios anglaises avec Frédéric Lodéon.
À 18h, le journal de Stéphane Leneuf.
À 18h15, les radios qui résistent à travers le monde. Dans Et pourtant il tourne, de Jean-Marc Four.
Et à 22h10, retrouvez Philippe Bertrand et ses invités pour l'esprit de résistance en France et en Allemagne avec la participation de la Deutschland Radio.
J'invite tous les Français à m'écouter.
Aujourd'hui, jusqu'à minuit, France Inter vous parle en direct de Londres.
15h07 sur France Inter, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Quand les drapeaux sont déployés, l'intelligence est dans la trompette.
Flight number 2, arriving.
Flight
un jour idéal pour sortir la phrase de Stefan Zweig. Quand les drapeaux sont déployés, l'intelligence est dans la trompette. Sur cette musique solennelle qui fut, vous allez être étonné, le symbole de la résistance pour des millions et des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Résistance, donc, ce mot que nous célébrons, l'appel à la résistance, que nous célébrons magnifique, héroïque, utopique. Mais le risque, c'est d'en faire un événement historique incomparable, indépassable, inimitable, c'est-à-dire un machin sacré, officiel et emmerdant comme un machin sacré et officiel, une sorte de De Gaulle mania, quelque chose qu'il aurait peut-être appelé la dévotion des veaux. Résistance, bien sûr, le mot résistance est un mot valise dans lequel on met n'importe quoi. Édouard Leclerc fait de la résistance et Marie Le Pen aussi. Mais si on prend le mot résistance dans le sens qu'il a aujourd'hui, en ce 18 juin, 70 ans après, il faut dire que de la résistance, il y en a eu avant, en Allemagne même, souvenons-nous, des orchestres rouges et autres roses blanches, l'orchestre rouge des communistes et les roses blanches des chrétiens de 1933 à 1939, 1 million d'Allemands et d'Allemandes ont été envoyés dans des camps de concentration. De 1933 à 1945, 32 500 personnes, allemandes et allemands, ont été condamnés à mort et exécutés. Cet esprit de résistance, on le trouve bien sûr tout au long de l'histoire et on l'a souvent croisé dans les 20 ans de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, avec l'équipe, on a choisi 3 figures de la résistance. Xenia, que nous avions rencontrée à Saint-Pétersbourg en 1994 avec Zoé Varier. Xenia était la dernière musicienne de l'orchestre de la radio de Leningrad qui réussit durant le siège de 900 jours à créer la 7e symphonie de Chostakovitch au milieu des cadavres. Ensuite, on retrouvera l'écrivain indonésien Pramedia Anantatur qui a vécu 10 ans dans le goulag tropical de Buru. Le Solzhenitsyn de gauche, Promedia Anantatur, à peu près totalement inconnu en France. Et pour rendre hommage à Lucie Aubrac, on conjuguera le verbe résister au présent pour finir avec Malalai Joya, qui est une jeune femme afghane que nous avons rencontrée en 2006 et qui, à Kaboul, se bat, résiste à l'irrésistible. La résistance à laquelle invite l'appel du 18 juin 40, il ne faut pas l'oublier ni le négliger, implique des risques. C'est faire le choix des armes, des larmes et du sang. N'oublions pas le chant des partisans. Souvent, très souvent, les résistants sont des terroristes auxquels l'histoire donne raison. Et la résistance aujourd'hui, peut-on faire une équivalence entre la résistance d'hier et la résistance aujourd'hui, la collaboration hier et la collaboration d'aujourd'hui, car cette résistance se dressait avant tout contre la collaboration. La résistance, où est-elle aujourd'hui? C'est pas évident de répondre à cette question. Disons qu'elle est dispersée. Alors que la collaboration, eh bien, elle est là. La collaboration, c'est le pragmatisme, c'est le réalisme, c'est l'ordre des choses, c'est faire avec l'inévitable. Je vous laisse conclure, mais je pense que nous vivons aujourd'hui la victoire posthume de Philippe Pétain. C'est lui qui a gagné, et non pas celui qui disait « la politique ne se fait pas à la corbeille ». Lors de la victoire, le 26 août 1944, en descendant les Champs-Élysées, Charles de Gaulle ne s'est pas arrêté aux Fouquet's. Et aujourd'hui, devant la figure de De Gaulle, jamais Sarkozy n'a été aussi petit. Je ne parle pas de la taille, je parle de la grandeur. Alors on va commencer donc avec Xenia. 1994, Saint-Pétersbourg ne s'appelle plus Leningrad, mais redevient Saint-Pétersbourg. Et nous la rencontrons dans un petit appartement de cette ville où elle nous attend. C'est la dernière musicienne de cet orchestre de la radio de Leningrad qui réussit donc à créer l'œuvre, la 7e symphonie de Shostakovich. À elle toute seule, cette symphonie est une œuvre de résistance. Une œuvre de résistance à l'invasion allemande et contre le siège de Leningrad qui dura, vous le savez, 900 jours, qui fut une horreur totale. On mourut de froid, de faim, de scorbut. Les tas de cadavres s'entassaient au coin des rues. Il y a eu des scènes de cannibalisme, mais les habitants se sont organisés, ont résisté, ont même réussi à un moment à fabriquer des armes et donc à créer cette œuvre de Shostakovich, durant l'exécution de laquelle les canons se turent. Les Allemands cessèrent de tirer sur la ville pour écouter cette œuvre à la radio.
Elle s'est fait belle aujourd'hui. C'est une très jolie dame. Elle est magnifique, vraiment. Et alors, elle a mis aujourd'hui, pour nous honorer, toutes ses médailles. On va d'abord demander qu'est-ce que c'est que ces médailles que vous portez là.
Moi, j'étais
une. Qui sont superbes, toutes. Les femmes portent comme ça au revers.
Des médailles.
Leningrad, la blockade.
Ça, c'est à cause du siège que j'ai reçu cette médaille, parce que j'ai défendu Leningrad.
Так, о, ветеран Отечественной войны.
Ça, c'est comme ma médaille de vétéran de la Deuxième Guerre.
Великой Отечественной войны медаль. Дальше, трудовую доблесть, это за мою работу.
Et ça, c'est une médaille parce que j'ai bien travaillé.
Герою славы, 250 лет Ленинграду.
Ça, c'est la médaille pour l'anniversaire de la construction de la ville de Leningrad à 250 ans. Et voilà, c'était la ville héroïque du pays.
Вот это блокада.
Vous regardez, je voudrais vous montrer ces photos. Ça, c'est le siège.
Блокада, посмотрите на эти лица.
Regardez ces visages, вот regardez les visages посмотрите. De ces musiciens.
Дистрофики у нас назывались.
Ils sont дистрофиés.
Дистрофики. Это 42-й год.
Ça, c'était en 1942. Vous voyez leur visage.
Это вот симфонический оркестр.
C'était notre orchestre symphonique.
Из этих людей уже никого не осталось.
De
фактически.
Tous ces gens que vous voyez sur cette photo, il ne reste plus personne.
И вот эти люди
pratiquement.
В 46-м году.
Ça c'est en 1964.
И я вам покажу. Вот это лицо, посмотрите.
Ce monsieur là en 1941-42, mm-hmm. Vous voyez
вот
son visage. Et là c'est la même personne que là sur cette photo là en 64.
Mm-hmm. Остальные, в общем, все умерли.
Et tous les autres sont morts.
Когда я увидела своих товарищей, которые остались в оркестре, а в оркестре осталось 28 человек, остальные все умерли.
Alors, quand je suis arrivée à la radio, j'ai vu mes anciens camarades, il ne restait plus que 28 personnes dans l'orchestre, les autres étaient ou morts ou partis au front.
И все они, опять-таки, как мы называем, дистрофики.
Et tous
мужчины в платках, в шапках одеты.
Les hommes avaient des foulards,
у некоторых
des
тут гарь от коптилок. не могли, некоторые не могли подняться на четвертый этаж, музыканты.
Certains musiciens n'arrivaient même pas à aller jusqu'au quatrième étage.
Сидели во втором этаже. И вот мы ходили их за шкирку, ну, под руку брали и тащили на репетицию.
Certains, ну, alors ils montaient jusqu'au deuxième étage, et puis nous on portait pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la salle de répétition.
Концерт состоялся.
C'était le 20 mars.
А 5 апреля у нас был первый концерт в Пушкинском театре.
Et le 5 avril, on avait notre premier concert au théâtre Pushkin.
Наши мужчины были одеты, ну, рабочие такие спецовки, да, ватники. Сверху пиджаки свои. У медных инструментов, там валторны, трубы, тромбоны, они все играли в перчатках, но пальчики обрезаны.
Les hommes portaient des vestes de travail et puis par-dessus ils mettaient leurs vestes. Tous ceux qui jouaient des instruments avant avaient des gants avec les doigts coupés au bout.
И когда мы заканчивали произведение, аплодисментов не слышно было, потому что они сидели в варежках.
И quand on a fini de jouer l'œuvre, on n'a même pas entendu les applaudissements parce qu'ils avaient des moufles.
Genia est morte le 28 décembre. À 12h30, Babouchka est morte le 25 janvier à 3h, Leka est morte le 17 mars à 5h du matin, Dedia Vassia est mort le 13 avril à 2h de la nuit, Dedia Lecha est mort le 10 mai à 4h de l'après-midi, Maman est morte le 13 mai à 7h30 du matin, les Savitchev sont morts, tous sont morts, il ne reste que moi, Tania, j'ai 11 ans.
Но для нас это начиналась новая жизнь.
Pour nous, c'était une nouvelle vie, parce que nous avions pu faire notre premier concert.
Alors, ensuite, après ce succès, vous avez décidé de jouer Шостакович.
Для начальства наше решило, что в Ленинграде должна идти седьмая симфония.
Voilà, oui,
а с кем? Музыкантов не хватает.
Alors, c'est après ce concert-là que notre direction d'orchestre a décidé que la 7e symphonie de Шостакович devait être jouée à Ленинград. Mais avec qui? On n'avait pas assez de musiciens pour jouer cette symphonie.
И Карл Лич на велосипеде ездил по адресам узнавать, живы музыканты или нет.
Et alors Karol Lich, le chef d'orchestre, a fait le tour de la ville à vélo pour aller chez les différents musiciens pour savoir s'ils étaient encore vivants ou pas pour pouvoir faire un orchestre pour jouer cette symphonie.
С фронта вызывали музыкантов. Им давали пропуск. И они шли через комендатуру с пропуском, а там было написано «Пропустить на исполнение седьмой симфонии с Элиасбергом».
On a fait revenir des soldats du front, des musiciens qui étaient partis au front, on les a fait revenir à Leningrad et on leur a donné des droits de passage où il y avait écrit pour jouer la 7e symphonie de Шостакович.
Мы, конечно, все в ажиотаже, потому что трудно, всем трудно, все же уже морально отстали, понимаете?
C'était difficile de jouer parce qu'on était tous fatigués, on n'en pouvait plus et moralement, c'était pas simple.
И вот играем, вдруг первый трубач ставит трубу себе на колени и не играет.
Voilà qu'un des musiciens, un soliste, pose son instrument et arrête de jouer.
Карл Лич останавливает оркестр. Почему вы не играете?
Alors Karol Lich a arrêté l'orchestre et a dit mais pourquoi vous ne jouez pas?
У меня, говорит, нет сил дуть.
Et il a dit, moi, je n'ai pas la force de souffler dans mon instrument.
А как вы думаете, у нас, говорит, есть силы?
Et Karol Lich a répondu, mais vous croyez que nous, on l'a, la force?
У нас ни у кого сил нет, но симфония должна идти. Давайте работать.
Et Karol Lich a dit, personne ici n'a de force, mais cette symphonie doit être jouée, alors on recommence.
В филармонии стоят грузовые машины, И оттуда выходят солдаты в тулупах, с автоматами. Их специально привезли с фронта на концерт.
Чтобы они что?
Слушали.
Et alors, on est allé à la Philharmonie et on a vu arriver des camions d'où sont sortis des soldats avec leurs fusils. Et ils venaient pour écouter le concert. On les avait fait revenir du front pour qu'ils viennent écouter le concert.
Et вот, наконец, публика собралась. Публика шла ленинградцы, которые еще живы.
Le public, c'était tous les habitants de Leningrad qui étaient encore vivants.
Они шли нарядными, лучшие свои наряды одевали. Но все висело у них, как на распялке, потому что все похудели.
Tous les gens qui venaient au concert s'étaient bien habillés parce que c'était un jour de fête, mais comme ils avaient beaucoup maigri, leurs vêtements étaient trop larges.
И вот выходит Карл Рич, стройный, опять во всем белом, во всем крахмальном, но чувствует, что он на нервы. Публика встает, нас приветствует, аплодирует.
Et alors, nous sommes rentrés sur scène et Karolitch est arrivé, bien habillé. Mais on sentait qu'il était nerveux et le public a commencé à nous applaudir.
Et наконец, он взмахнул, и симфония пошла.
Et alors, il a baissé la main. Vous voyez, juste avant qu'on baisse la baguette pour que la symphonie commence, il a baissé la main et on a commencé à jouer. Ah.
Откуда у нас были силы, вот до сих пор я не понимаю, но мы с полной отдачей играли.
D'où on prenait notre force, je ne le sais toujours pas. On a joué cette symphonie, je ne sais toujours pas comment, je me pose toujours la question. Mais on l'a joué et on l'a bien joué.
И в общем, в результате, после этого концерта мы все целовались, обнимались, радовались, что мы поняли, что мы сделали великое дело, потому что симфония транслировалась на весь мир.
Et à la fin du concert, on a compris qu'on avait fait une grande chose. On s'est tous embrassés, on s'est pris dans les bras les uns des autres. On a compris qu'on avait fait une grande chose parce que cette symphonie a été retransmise dans le monde entier. Chez vous aussi, en France, elle a été retransmise.
Hommage à l'esprit de résistance, à des résistances inconnues, inaperçues ou méconnues. Après cet hommage à cette musicienne et à ces musiciens russes, voilà Pramedia Anantateur. Pramedia Anantateur, c'est quelqu'un qui a peu de chance de rentrer au panthéon de la résistance. C'est pourtant l'écrivain indonésien le plus célèbre. On l'appelait Pram, il est mort en avril 2006 et son histoire renvoie à une histoire que nous connaissons mal ou pas du tout, celle de l'Indonésie. Pramedia Anantateur, Pram donc, fut un Solzhenitsyn de gauche, mais beaucoup moins célèbre parce que son bourreau, le général Suharto, était un pion des États-Unis dans la guerre froide. Et il faut rappeler qu'en arrivant en 65 au pouvoir, le général Suharto a commencé par faire massacrer 500 000 de ses opposants, puis ce fut la répression au Timor-Est qui fit un minimum de 200 000 morts. Ces chiffres sont minorés très souvent. On donne des chiffres beaucoup plus élevés. Pramedia Anantateur était un homme de radio. Il fut aussi un journaliste, il fut avant tout un écrivain et un opposant qui a passé plus de 10 ans dans le goulag indonésien sur l'île de Buru. Toute sa vie, il a été sous contrôle judiciaire, sous contrôle de son adversaire Soeharto, et nous l'avons rencontré quelques jours avant la chute de Soeharto, en 1998, en avril 1998, un petit homme dans une ruelle qui était gardée par la police. Il fallait contourner leur vigilance pour arriver jusqu'à lui. Il nous recevait dans une petite pièce avec au mur des dessins de son ami Günter Grass, qui faisait partie des écrivains qui militaient pour que Pram obtienne un prix Nobel. À ce moment-là, il avait déjà obtenu quelques prix et quelques soutiens internationaux qui allégeaient un peu son combat. Une vraie figure de résistant qui était à cette époque-là à deux doigts de gagner, puisque son adversaire, quelques jours plus tard, allait chuter et allait disparaître comme on le sait. Rencontre donc avec Pram, Pramedia Anantatur.
It's time to wake up. Thank you. Jam bangun Anda telah tiba. Terima kasih.
We don't need money. We want reformasi.
L'homme qui est devant nous, qui est assis, qui sourit, superbe bonhomme, a composé le premier d'une série de ses romans. Il a écrit depuis 1945-1946, mais il y a une série de ses romans, un quatuor de romans, qu'il a écrit durant sa détention à Buru. Mais il ne l'a pas écrit, il l'a composé oralement. Ça s'appelle « The Earth of Mankind », et ce roman-là a été composé oralement. Il n'avait pas de papier, c'était interdit. Il n'avait pas de crayon, ça lui était interdit. Alors, le soir, il racontait ce roman à ses compagnons de détention. C'est dans cette petite maison qu'il habite, sous surveillance, et il reçoit autant qu'il peut des visiteurs étrangers. Vous êtes né en 1925. Vous avez commencé à écrire en 1946, et là, c'était avant l'indépendance, c'était au temps des Hollandais. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu ce temps des Hollandais, au temps de la colonie?
Yang mendidik anak-anaknya itu benci pada penjajahan, bahkan juga benci pada Belanda.
Mon père apprenait à ses élèves à détester le colonialisme, et notamment les Hollandais.
Oui, parce que c'était eux qui étaient les colons. voilà du thé, c'est très gentil. Bonjour madame, bonjour. Les Hollandais étaient très durs.
Oh, sebetulnya kalau dibandingkan dengan Orde Baru itu sangat lunak.
Si on les compare avec ceux de l'Ordre Nouveau, non, ils sont vraiment...
L'Ordre Nouveau, c'est le pouvoir qui est toujours en place ici, en Indonésie. Donc les Hollandais étaient moins durs que l'ordre qui règne actuellement. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que l'Ordre Nouveau est un système qui colonise l'Indonésie?
Plus que ça.
C'est plus que ça.
Barbares.
Ce sont des barbares.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre des risques en parlant comme vous le faites?
Oh, kalau mereka mau bertindak terhadap saya, silakan.
S'ils veulent m'inquiéter, ils peuvent le faire. Hein.
Setelah saya mendapat award dari UNESCO, saya tidak diganggu lagi.
Depuis que j'ai eu le prix de l'UNESCO, je ne suis plus inquiété.
Il n'ose plus vous toucher.
Bukan tidak berani, tidak mengganggu lagi.
Il ne me dérange plus.
Juga tidak ada fitnah lagi di pers.
Et il ne me maltraite plus dans la presse non plus.
Est-ce que vous pouvez évoquer 1965? Il y a eu un coup d'État et des hommes, parce qu'ils étaient communistes, ont été massacrés.
Saya seorang redaktur dari sebuah koran yang memimpin lembaran budaya. Korannya namanya Bintang Timur, pendukung Soekarno.
À ce moment-là, j'étais rédacteur et je m'occupais de la page de la culture. Et c'était un journal qui soutenait Soekarno.
Soekarno melahirkan nation Indonesia.
Soekarno a donné naissance à la nation indonésienne.
C'est ça.
Tapi Soekarno mendirikan Orde Baru ini.
Soeharto a fondé l'ordre nouveau.
Dengan membunuh bangsanya sendiri sebanyak 2 juta orang.
En massacrant 2 millions de ses concitoyens.
Vous considérez, attendez, c'est grave ce que vous dites là, parce que vous êtes un homme important, non seulement dans votre pays, mais dans le monde. Et vous considérez, vous, que Soeharto a fait massacrer 2 millions d'Indonésiens.
Tanpa pernah mengadili pembunuhnya, satu orang pun sampai sekarang tidak ada yang diadili.
Et ceux qui ont commis les meurtres n'ont jamais été jugés.
En 65 et 66.
Termasuk pembunuhan di Tim-Tim.
Et ça, non compris les meurtres qui ont eu lieu à Timor-Est.
Mais dans les 2 millions de personnes que Soeharto a fait assassiner, est-ce qu'il s'agissait de tuer des communistes ou non?
Iya, alasannya.
Oui, la raison était qu'ils étaient accusés de communisme. Alors,
mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment?
Untuk menjadi komunis, orang harus tahu filsafat.
pour devenir, pour être communiste, il faut avoir beaucoup lu, il faut connaître la philosophie.
Donc il ne l'était pas. Selon vous, les hommes qui ont été massacrés, pour la plupart, n'étaient pas communistes.
Orang biasa saja.
Oui, c'était des gens tout à fait communs.
Comment se déroulaient les massacres?
Kebanyakan tidak ditembak, tapi dengan senjata tajam. Bahkan di Jawa Timur itu sebelum dibunuh, yang membunuh itu juga orang-orang biasa yang diberanikan untuk membunuh. Sebelum-belum malah pada menari-nari dulu sebelum membunuh mereka.
La plupart qui ont été assassinés l'ont été avec des armes blanches. Et dans la province de Java Est aussi, les meurtriers, qui étaient des gens très simples, hein, mais qui avaient été poussés à tuer, allaient jusqu'à danser avant de commettre leur meurtre.
Tidak, bukan soal etnik itu.
C'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème politique.
Jadi, supaya berdiri Orde Baru secara cepat.
Pour fonder le plus vite possible l'ordre nouveau, il fallait effrayer les gens, les intimider.
Les écraser.
Orang dibikin takut.
Oui, on leur faisait peur.
Tapi semua ini adalah bagian dari perang dingin.
Mais ça, c'est un épisode de la guerre froide.
Perang dingin itu sampai sekarang tidak pernah disebut oleh Orde Baru.
La guerre froide n'a jamais été citée jusqu'à présent par l'ordre nouveau.
Buru, c'est une île sur laquelle vous avez séjourné. C'était une île pénitentiaire et beaucoup de gens comme vous ont séjourné dans cette île.
Oui, à peu près 14 000.
Vous étiez 14 000 à Buru.
Saya rombongan pertama yang masuk sana.
Moi, je suis le premier groupe qui est parti de là-bas.
Vous êtes resté combien de temps alors à Buru?
10 tahun.
10 ans.
Kerja paksa.
Les travaux forcés.
Dan makan harus cari sendiri.
Et si on voulait manger, il fallait chercher soi-même.
Buru itu sekitar 1,5 kali besarnya Pulau Bali.
Buru, c'est une île qui fait 1,5 fois l'île de Bali.
C'est très grand.
Dan sepertiga pulau itu jadi konsentrasi kamp.
Et le tiers de cette île a été transformé en centre de concentration.
Comment on fait pour tenir, pour résister?
Ya, kita harus survive.
Oui, il faut survivre coûte que coûte.
Jadi sekitar 50% mati.
Donc environ 50% des prisonniers mouraient en prison.
Qu'est-ce que vous faisiez dans une journée de ces 10 ans?
Buka hutan. Membuat sawah, membuat jalanan.
Oui, pernah des travaux forcés. On défrichait les forêts, on faisait des routes.
Pernah juga jadi penempa besi untuk membuat alat-alat pertanian.
Oui, j'ai aussi fait forgeron, donc pour faire les outils agricoles.
Est-ce que vous pouviez lire? Est-ce que vous pouviez écrire?
Saya mencoba menulis, tapi semua dirampas.
J'ai essayé d'écrire, mais on m'a tout confisqué.
Ada seorang teman kedapatan membaca sobekan koran bekas bungkus, entah apa itu alat, apa itu pintu ini yang nanti.
C'est un ami qui a pu obtenir un petit bout de journal qu'on utilisait pour envelopper les instruments. Et donc, il a été surpris en train de lire ce petit bout de journal. Et deux jours après, on l'a retrouvé, il flottait avec les mains liées dans le dos.
Ah. Quel a été le plus beau jour de votre vie ?
Sulit untuk menjawab. Sejak kecil saja belum pernah merasa senang.
Ce serait difficile de répondre. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais ressenti une journée où j'étais heureux.
Tidak sempat belajar di sekolahan.
J'ai pas eu l'occasion d'étudier à l'école.
Kerja terus.
Je travaillais tout le temps.
Sampai sekarang.
Jusqu'à aujourd'hui.
Di fitnah, di aniaya.
J'étais insultée, j'étais trahie. J'ai toujours connu des choses
difficiles.
Pemerintah melarang buku-buku saya, itu merampas penghidupan saya.
Le gouvernement a interdit mes livres. Ouais. Ils m'ont pris ma vie.
Sehingga di Indonesia saya tidak bisa dapat uang.
En Indonésie, je peux pas avoir de l'argent. Pour vivre, je peux pas avoir d'argent en Indonésie.
Est-ce que vous croyez que l'homme fait des progrès?
Ya melihat konvensi-konvensi maju.
Oui, en voyant toutes les conventions, oui, il y a une évolution. Il y a
des progrès quand même pour vous.
Oui, il y a des progrès.
Kecuali di Indonesia, ya.
Sauf en Indonésie.
Ouais, plus le discours est long, plus la responsabilité est petite. Vous êtes un dissident. Au fond, vous êtes un homme dissident.
Yang sebetulnya siapa yang melawan itu, mereka melawan saya apa saya melawan mereka?
Oui, c'est eux qui s'opposent à moi ou c'est moi qui s'oppose à eux?
Alors, c'est eux qui s'opposent à vous ou vous qui vous opposez à eux?
Mereka. Ce sont eux.
Ce sont eux, c'est ça.
Mereka vous, artinya orde baru ini.
Voilà.
C'est ça, l'ordre nouveau.
C'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un marginal, c'est eux les marginaux. Vous n'êtes pas un dissident, vous n'acceptez pas le titre qu'ils vous donnent.
Dan cara ini dijalankan terus sampai sekarang.
Cette façon de faire, ça continue toujours.
Jadi barang siapa jadi korbannya Orde Baru, dia akan didakwa.
Quelle que soit la victime de l'ordre nouveau, elle sera toujours accusée.
Sampai ouais. Sekarang.
Et ça, c'est toujours maintenant.
Des résistants méconnus, inconnus, une troisième rencontre pour illustrer, je le disais en commençant, la phrase de Lucie Aubrac qui dit « le verbe résister se conjugue au présent ». Voilà une femme bien présente, jeune, elle est née en 1978, elle s'appelle Malalai Joya, elle est afghane. Et elle est en colère. Elle aurait pu faire une formidable figure médiatique comme les médias les aiment. C'est une femme qui est contre la burqa, qui se bat contre les talibans. Donc, on aurait pu en faire une figure comme ça. Seulement, voilà, elle est en colère contre un peu contre tout le monde. Elle est en colère contre l'ingérence étrangère, des puissances étrangères dans son pays. Elle porte au revers de sa veste un pins où il est écrit « US out of Afghanistan ». Elle est contre la présence des États-Unis en Afghanistan. Elle se bat contre les seigneurs de guerre, les warlords qui sont au pouvoir actuellement dans son pays. Elle se bat aussi contre le président Hamid Karzai, mais surtout elle met en cause celui que la France aime, le lion du Panjshir, le commandant Massoud, tué en 2001. Elle le met en cause car elle évoque ce qui s'est passé après le départ des Soviétiques entre 92 et 96 en Afghanistan et notamment à Kaboul, cette lutte et cette guerre acharnée que ce sont les chefs de guerre se sont affrontés, et elle accuse Massoud d'avoir été responsable d'un nombre considérable de morts dans sa ville. Voilà peut-être une des raisons pour lesquelles Malala Joya n'est pas devenue une star médiatique. Elle a été élue au Parlement de Kaboul, mais elle en a été expulsée quelques années plus tard, justement à cause de sa véhémence et à cause de son exigence. Sa vie est en danger. Elle est toujours entourée de gardes du corps. C'est une véritable vie blindée que la sienne. Elle est haute comme trois pommes et elle se bat sans interruption. C'est vraiment une figure de la résistance, une figure politique de la résistance qui se bat sur un plan, sur le plan social, disons, mais aussi sur le plan du féminisme. En Afghanistan, ce mot n'est pas un vain mot. On avait, avec Guy, inventé un mot génocide au sens des femmes tuées et massacrées dans ce pays. C'est une véritable cause que la sienne, et c'est une véritable cause internationale qui devrait être celle de tous. En 2001, lorsque nous étions en Afghanistan, on avait rencontré, quelque temps après l'invasion des forces de la coalition, comme on disait, un vieil Afghan nous avait dit « S'il reste », et il montrait les Américains, il voulait dire les Américains, « on leur fera ce qu'on a fait aux Russes ». Il se pourrait bien que cet Afghanistan d'aujourd'hui, qui ressemble au merdier, entre guillemets, vietnamien d'hier, soit effectivement promis à une fin aussi pathétique. Et peut-être qu'un jour, la figure de Malala Joya sera reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une figure de résistance.
Est-ce que vous êtes musulmane?
You know, most of the population of Afghanistan, they are Muslim. But I'm a Muslim who believes in secularism. If we have secular government,
la majorité de la population en Afghanistan est musulmane, mais moi, je suis pour un islam séculier, c'est-à-dire laïque. Et je pense que si l'islam était laïque en Afghanistan, beaucoup de ces criminels qui se réclament de l'islam ne pourraient plus commettre leurs crimes, ne pourraient plus tout se permettre au nom d'Allah.
Bon, on a compris, vous êtes en opposition complète avec les talibans. Et les talibans, on a cru qu'ils étaient partis, et les revoilà. Ils reviennent et ils sont pas contents.
Because US and US allies, unfortunately, they replaced instead of Taliban North Alliance jihadi people.
Parce que c'est d'abord parce que les États-Unis et la coalition ont remplacé les talibans par d'autres djihadistes qui sont ceux de l'Alliance du Nord.
As I had a speech in Parliament on 7th of May, these warlords physically beat me by throwing bottles of water. Even one of them shouted in Parliament, taking rape her, and they said prostitute and like this because.
Mais moi, j'ai été prise à partie au Parlement même après un discours. On m'a jeté des bouteilles d'eau, on m'a violentée. Il y en a même un qui s'est levé qui a dit prenez-la et violez-la. Parce que j'avais ouvert la bouche pour dire.
Because I said there that we have two kind of mujahideen, one real mujahideen that they martyred because of freedom of their country, and right now we have lots of orphans, widows.
Parce que j'ai dit il y a deux sortes de mujahideen, il y a deux sortes d'anciens combattants, il y a ceux qui sont battus pour la liberté de leur pays, qui sont tombés au combat, qui ont été martyrs, qui ont laissé des veuves et des orphelins.
C'est le cas de votre père?
My father also was one Afghan, like other Afghans.
Mon père était un Afghan comme beaucoup d'autres.
He must fight because of freedom of his country.
Et il a dû se battre pour la liberté de son pays.
Yeah, and another kind of mujahideen, they are criminal mujahideen because when Russian became failed in Afghanistan, they went out from Afghanistan.
Et après, il y a ceux qui ont tiré profit de la défaite russe et du retrait progressif des Russes et qui ont commencé à créer des partis qui se sont battus les uns contre les autres pour leur propre intérêt et qui ont tué énormément de civils.
Only in Kabul they martyred 65,000 people only in Kabul.
Rien qu'à Kaboul, 65 000 personnes sont mortes ainsi.
And it's enough that you see that what's going on in Kabul. Kabul that why millions of dollars the government of Afghanistan they are receiving under the rebuilding of Afghanistan, the reconstruction of Afghanistan.
Et maintenant de voir qu'il y a des millions de dollars américains et étrangers qui arrivent rien qu'à Kaboul pour la reconstruction de ce pays.
But here is no fundamental changes, and the main reason is this.
Aucun changement fondamental pourtant dans la situation des gens.
And the main reason is this that U.S. and U.S. allies they replaced instead of Taliban North Alliance jihadist people, those criminals that they are not real mujahideen. They are those criminal mujahideen.
Et ça, c'est que les États-Unis et leurs alliés ont remplacé à la place des talibans pour donner cet argent et pour reconstruire le pays les djihadistes fondamentalistes de l'Alliance du Nord qui ne sont pas des vrais mujahideen.
And they are those mujahideen that because of power they martyred lots of innocent suffer people in Afghanistan.
Ils ont tué énormément de civils innocents juste pour leur appétit de pouvoir. Ils ont tué des Pashtuns, ils ont tué des Hazaras.
Because these North Alliance they have same idea like Taliban.
And they are those que les talibans.
And they are those people that they also don't want to come security in Afghanistan.
Why? Ce n'est même qu'ils ne veulent pas que la sécurité soit instaurée en Afghanistan.
Because every crimes in Afghanistan that happen, they are saying Talib. They are not only terrorist Talib, and they want to show to the people around the world, especially to US and US allies, that only jihadi people they control Afghanistan.
Parce que chaque fois qu'il y a un crime qui est commis en Afghanistan, tout le monde dit ah c'est les talibans, c'est les talibans, et donc ils ont tout intérêt à faire prospérer ce désordre. Et chaque fois, l'Alliance du Nord peut dire aux Américains et à leurs alliés, regardez, c'est les talibans et nous seuls pouvons contrôler le pays.
And if we have real democrat government, non-warlordism government in Afghanistan, non-drug lord government in Afghanistan, our people, even they are very poor people. They are those people that they become tired from the fighting, from the terror, from everything.
Et notre peuple qui est fatigué de la terreur, fatigué de la guerre, fatigué de tous ces combats, s'il y en avait un gouvernement, un vrai gouvernement, sans des seigneurs de la guerre, sans des seigneurs de la drogue, sans des gens qui ont du sang sur les mains, on serait capable alors de reconstruire ce pays.
Mais nous, on a une star en France qui est Massoud. Les Français adorent Massoud parce que Massoud, c'est un héros, parce que Massoud s'est battu tout seul, parce que Massoud, c'est le lion du Panjshir et il s'est battu contre les talibans de façon héroïque, solitaire. Et puis, il a été assassiné quand même par les gens d'Al-Qaïda le 9 septembre 2001, etc. Est-ce que lui aussi, vous le comptez parmi ces assassins ?
I want to tell you that Ahmad Shah Massoud is not hero of Afghanistan.
C'est pas un héros de l'Afghanistan, Ahmad Shah Massoud.
Yeah. Why? Because right now brothers of Massoud who have same idea like Massoud they are in power.
Parce qu'aujourd'hui son frère qui a les mêmes idées que lui est au pouvoir.
And you should ask from offshore people that Taliban they did massacre in the Yakaulang of Bamiyan and this Massoud and party of Massoud they did massacre in offshore. They killed lots of
Massoud,
lots of Hazara people.
Est-ce qu'on fait aux gens d'Afshar, les gens des Hazara de la région de Bamiyan, ou c'est les gens de Massoud qui les ont massacrés?
And I have lots of documents. Even you should write the Human Rights Watch book.
Il y a beaucoup de documents à ce sujet.
That,
par exemple, un rapport de Human Rights Watch.
And they wrote very well about the criminal faces of Massoud, especially from 1992 to 1996.
Et qui écrivent et qui décrivent très bien qui était ce Massoud et ce qu'il a fait, en particulier entre 1992 et 1996.
And there's lots of facts that we are saying Massoud is also one of the criminals. It's not easy telling about Massoud.
Et c'est très difficile de faire entendre aujourd'hui et de dire
history of Afghanistan.
L'histoire de l'Afghanistan et de ce qu'a fait vraiment Massoud.
Alors Massoud est mort aujourd'hui, mais il y a des seigneurs de guerre, des commandants, comme on voudra, qui, eux, sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, qui occupent des places importantes. C'est eux que vous combattez et c'est eux que vous dénoncez.
And we hope that one day all of these criminals go to the national and international courts. They face to the national and international courts.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, tous ces criminels qui restent encore vivants comparaissent devant des tribunaux internationaux.
And they become powerless. Then tell
these
warlords, these drug lords, these brothers of Massoud that they have same idea like Taliban. They are against women, against human rights, against constitution.
Ces seigneurs de la drogue, ces seigneurs de la guerre, ce frère de Massoud. Qui ont les mêmes idées que les talibans contre les droits des femmes, contre les droits de la population.
I know it's very risky for me that I'm talking openly about these.
Je sais que c'est très risqué pour moi de dire ces choses ouvertement à propos de tous ces criminels.
Because they are in power, killing of human is very easy for them, like killing of bird, especially they are against women. But I said the truth.
Ces gens-là sont au pouvoir et c'est très facile pour eux de tuer quelqu'un. C'est aussi facile de tuer quelqu'un que tuer un oiseau. Mais pourtant, je le dis quand même.
Attends, vous avez fait l'objet de plusieurs attentats. attentat.
This is four times that they did assassination after my speech in Loja 2003, but they didn't become successful. And after that, my life has been completely changed.
Ils en sont à la quatrième tentative d'assassinat contre moi après le discours que j'ai fait en décembre 2003 à la Loja Jirga. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore réussi, mais en tout cas, ils ont complètement bouleversé ma vie.
Dites-moi précisément qui vous visez.
Pourquoi ils les font taire? This is the reason they're afraid they don't want to be activists.
C'est pour ça qu'ils ont peur, ils ont peur que les femmes oui, s'engagent.
Moi je comprends maintenant. Vous nous donnez la réponse. Mais justement, parlons des femmes maintenant parce que j'ai l'impression sérieusement que vous parlez au nom de toutes les femmes qui ne parlent pas. Moi, j'arrive pas à m'habituer à ça, à ne pas voir de femmes, à ne pas entendre de femmes. Est-ce que les femmes vivent dans une situation de sous-développement, de disparition, d'humiliation, de ségrégation aussi systématique et systématiquement acceptée par les hommes et par les femmes elles-mêmes?
The women of Afghanistan right now, they have two kind of problems. One, our country is male domination country.
Il y a deux problèmes auxquels sont confrontées les femmes afghanes aujourd'hui. Yeah. Le premier, c'est que notre pays est sous la domination masculine rétrograde.
And another hand, our country is, our government is a warlordism government. Those people they are in power who have ideas against women.
Et le deuxième problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des seigneurs de la guerre qui ont des idées en tête contre les femmes.
I said to the Ministry of Women that please have a subject in the universities and the schools of Afghanistan under the name of women. For men and women of Afghanistan, because you must change the mind of men also.
Faites quelque chose pour que dans les écoles, les universités, il y ait des cours qui soient donnés aux hommes et aux femmes sur les droits des femmes pour leur faire comprendre et rentrer dans le crâne que ça doit être différent.
Est-ce que c'est difficile cette vie là? Il y a des militaires partout qui vous accompagnent. Vous avez une vie blindée avec des hommes en armes tout le temps avec vous, les escortes et tout.
For me, at first, it's a shame that I'm looking that I have a little bit security, that I'm looking that most of our people, they are looking in a way, but security condition.
J'ai presque honte d'avoir ce petit peu de sécurité autour de moi, alors que la plupart des gens de ce pays sont complètement exposés.
But in another hand, I'm fighting against gun and gun lords, but I have to have bodyguards and guns with myself because I want to be alive if I want to continue for my struggle.
Si, en même temps, comme je me bats contre les armes et les seigneurs de la guerre, il faut que j'ai des garde du corps aussi pour pouvoir me garder en vie et pour que je puisse continuer à me battre.
But it's a kind of torture for me, but I have to take care to my security because right now my wife
became the voice of those suffering people. Je suis obligé quand même de prendre garde à moi parce que ma voix c'est la voix de ceux qui souffrent dans ce pays.
And I don't want that because these people they have guns and they are in power, they can do everything. I don't want that they kill me easy.
Ils ont des armes, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux pas qu'ils aient la tâche facile s'ils veulent me tuer.
And I know that right now I when this voice became the voice of those people and I exposed them and especially inside of the parliament.
Sometimes I have trip around the world. I'm telling about reality. Et quand je fais des voyages à l'étranger aussi, je parle de cette réalité qui est dans ce pays.
I know my responsibility is very, very difficult. A lot that men and women they are right now they are looking at me and I'm proud.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui me regardent aujourd'hui. J'en suis fier et j'ai beaucoup de problèmes, mais je l'accepte parce que c'est ma mission.
Some people they are telling me Malala want to be famous and because of her.
Il y a plein de gens qui disent que Malala, elle veut être célèbre, elle veut être sur le devant de la scène, elle veut qu'on parle d'elle, mais pour moi, ce serait beaucoup plus facile d'aller à l'étranger, d'avoir une bonne vie et de réussir là-bas, mais je ne peux pas, ce serait une honte pour moi, inacceptable.
And one day, they will destroy all of the flowers, all of freedom-loving Democrat men and women in Afghanistan, as they killed in the past.
Et un jour, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de tuer tous les défenseurs de la liberté qu'il y a en Afghanistan, comme ils l'ont fait dans le passé. Et je sais que je suis qu'une seule personne, mais ils n'arriveront jamais à arrêter cette espèce de renaissance qui est en train d'avoir lieu.
Voilà, merci à tous. Merci à Malala et Joya. C'était une rencontre en 2006. C'était là-bas si j'y suis, en direct et en public de Londres. Merci à Zoé Varier et Guy Ventil, nos amis et traducteurs. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À signaler demain samedi à Paris, 17 rue Léopold Bellan dans le 2e arrondissement, avec Attaque, une rencontre avec des économistes, James Galbraith, Aurélie Trouvé, Suzanne Georges et Frédéric Lordon. À la technique aujourd'hui, à Londres, ici, Étienne Leroy, Pascal Baldassari, Elisabeth Collet, Dimitri Gronoff. C'est Coy Nguyen et Raphaël Mouter qui ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebotte. Et je rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Dans un instant, nous allons avoir les informations avec Corinne Audouin, mais auparavant, un message personnel.
Place au devoir de mémoire.
Je m'appelle Thibaut,
Julie,
Mathieu,
Lucie.
J'ai 8 ans et je vais vous parler de l'appel du 18 juin.
Quand le général de Gaulle il avait fait son discours, il redonnait de l'espoir.
L'exode, c'est la période où les gens fuyaient vers le sud. Les avions allemands bombardaient les routes pour pas que les charrettes, les voitures fuient.
Les Français essayaient d'emmener le plus de choses possible.
Quand ils faisaient l'exode, ils avaient peur de se faire tuer par les bombardements des avions allemands.
Il y avait des enfants qui se perdaient, qui étaient séparés de leurs parents.
C'était « Devoir de mémoire » avec la francemutualiste.fr.
Voilà, dans un instant, Frédéric Le Déon qui sera en direct ici de Londres, comme nous tous, comme France Inter aujourd'hui. Voilà les infos qui vous sont présentées par Corinne Audouin. Il est 16h sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la Basse-Gisby. Salut à tous.
Les Français parlent aux Français. Écoutez bien. Message personnel.
Il est évident que dans un sondage, à l'époque, De Gaulle aurait eu quoi, 1%, 2% de l'approbation des Français, ce qui montre que les sondages sont utiles, mais qu'on ne peut pas toujours fonder une politique sur les sondages.
Ces mots sont d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Vous entendrez l'intégralité de son message après les informations. Pour la première fois, un président français venu à Londres célébrer l'anniversaire du 18 juin 40. À cette occasion, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique David Cameron ont loué la qualité des relations entre leurs deux pays. Après avoir visité le studio de la BBC où Charles de Gaulle enregistra son appel, ainsi que son ancien quartier général à Carlton Gardens, le chef de l'État a déjeuné avec le chef du gouvernement britannique. Le PS accuse Nicolas Sarkozy d'avoir franchi la ligne jaune dans le dossier du rachat du quotidien Le Monde. Dans un communiqué, Patrick Bloch, chargé des médias au PS, l'a appelé à respecter la liberté de la presse et à mettre fin à ses tentatives de pression. Le président de la République avait convoqué le directeur du Monde, Éric Fotorino, pour lui faire part de ses préférences entre les différents candidats au rachat du groupe. Et en cette date symbolique, Reporters sans frontières lance son appel du 18 juin 2010 pour une presse libre. Dans un texte qui reprend la forme de l'appel du général de Gaulle, face aux pressions du pouvoir économique et politique sur l'indépendance des médias, RSF en appelle à la mobilisation des journalistes, mais aussi des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Avec ces mots en conclusion, la flamme de la presse indépendante ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, c'est dit. La France envoie des secours au Kyrgyzstan. Un avion d'aide médicale d'urgence transportant 3 tonnes de médicaments décollera cet après-midi. Les violences entre les Kyrgyzes et la minorité ouzbek ont fait au moins 192 morts et plus de 2000 blessés, et peut-être 1 million de réfugiés et déplacés, selon une estimation de l'OMS. Défaite surprise de l'Allemagne face à la Serbie cet après-midi en Afrique du Sud. L'Allemagne, réduite à 10 après l'expulsion de Klose, a perdu 1-0. La Mannschaft conserve cependant l'avantage dans son groupe et semble bien partie pour se qualifier en 8e de finale de cette Coupe du Monde de football. Et puis après la défaite des Bleus face au Mexique hier, le titre de TF1 est en nette baisse à la Bourse de Paris. Car si la France est éliminée de la Coupe du Monde, le manque à gagner publicitaire pour la chaîne représenterait plusieurs millions d'euros. TF1 a déboursé 120 millions d'euros pour l'exclusivité des droits du mondial. C'était un homme en révolte, un résistant à sa manière. L'écrivain portugais et prix Nobel de littérature José Saramago est mort aujourd'hui à 87 ans. Dans ses romans denses à la limite du fantastique, Saramago invite à se révolter contre l'état du monde. Il avait pris part à la révolution des œillets en 74, qui mit fin à la dictature salazariste au Portugal. En 92, il avait fait scandale avec l'évangile selon Jésus-Christ, où il dépeignait un Jésus utilisé par Dieu pour étendre sa domination sur le monde. Celui qui se décrivait comme un communiste libertaire avait quitté son pays pour vivre sur l'île espagnole de Lanzarote.
Aujourd'hui,
ici Londres,
toutes les heures, sur France Inter,
libre. Les Français parlent aux Français.
En ce jour anniversaire de l'appel du général de Gaulle, 18 personnalités adressent un message personnel aux auditeurs de France Inter. Tous ont vécu et subi la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Leroy Ladurie.
Je ne me donnerai pas le ridicule de prétendre que j'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Mais enfin, j'avais 10 ans, j'étais à Nantes avec des millions de réfugiés dans toute la France, la défaite de 40, chez une dame, une amie de ma famille. Et au déjeuner, cette dame a dit, et elle avait lu le journal, « Vous avez vu cet appel de ce général de Gaulle qui ose être contre le maréchal Pétain. » N'oublions pas que la presse était encore libre, pour quelques jours peut-être, et que les nouvelles étaient parues de façon, on ne le dit pas assez aujourd'hui, assez claire. Il est évident qu'il y avait à cette époque un abîme entre ce que disait de Gaulle et ce que pouvait penser une grande partie des Français. Cet abîme ne sera comblé que peu à peu, et même il faudra encore des années après la libération. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est à peu près comblé. Et pourtant, j'y ai bien réfléchi depuis, évidemment, même si j'étais un petit pétainiste à l'époque, enfin, j'étais pas le seul en 40, cet appel était conforme à des faits, la possibilité d'une intervention russe ou américaine, que de Gaulle n'a pas mentionné comme tel, mais auquel il pouvait penser, et d'autre part, une prise de position morale contre la domination nazie sur l'Europe. Il y a donc eu chez de Gaulle une part considérable d'intuition qui faisait partie de sa nature. Il se trompait souvent, mais là, il était vraiment tout à fait, j'ose dire, dans le mille. Et n'oublions pas que c'est un lecteur de Bergson, qui est un grand philosophe de l'intuition, l'intuition bergsonienne, justement. Il est évident que dans un sondage, à l'époque, de Gaulle aurait eu quoi, 1%, 2% de l'approbation des Français, ce qui montre enfin, que les sondages sont utiles, mais qu'on ne peut pas toujours fonder une politique sur les sondages. De Gaulle mérite ainsi de figurer parmi les pères fondateurs de la République française, même si cette République telle qu'elle existe est là depuis 1870, de même que Lincoln est un père fondateur de la République américaine, même s'il est arrivé 60 ans ou 70 ans après celle-ci. Alors, on me dira que de Gaulle n'était pas parfait. Sur les harkis, il n'a pas eu une attitude extraordinairement généreuse. Même ce que peu de gens savent, il a joué un rôle essentiel avec Edgar Faure dans la loi d'orientation des universités, et on ne peut pas dire que ce soit toujours un succès. De Gaulle prend ainsi la place de l'innocente figure féminine de Marianne, puisqu'on manquait de quelqu'un pour cette République. Ni Robespierre, ni Napoléon ne convenaient. Gambetta était mort trop jeune, Clémenceau mort trop vieux, et de Gaulle convenait tout à fait pour cette figuration d'un père fondateur. Il avait en somme, en ce domaine, trois qualités essentielles, le charisme, la légitimité, et enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler le don prophétique, non pas le Saint-Esprit, certes, mais ce qu'on appelle dans les textes sacrés l'esprit de vérité.
C'était Emmanuel Leroy Ladurie, 80 ans, historien, entre autres, du climat.
Radio France, Londres. Aujourd'hui, jusqu'à minuit, France Inter vous propose 18 heures de programme.
18 heures de programme.
En direct de Londres.
Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
À 17h, cinéma et résistance dans On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas.
À 19h, le journal d'Alain Passerelle.
À partir de 20h, Arnaud en live au Coco.
Un concert exceptionnel, des invités prestigieux.
Jane Birkin,
Arthur H,
Chetim Elua,
Camille O'Sullivan.
Et à partir de 23h, les mots de la fin. Guillaume Gallienne lira Churchill, De Gaulle et d'autres textes d'anciens résistants.
L'effort des Français libres et celui de nos alliés ne feront qu'un. Jusqu'à la victoire.
Aujourd'hui, ici, jusqu'à minuit, Londres. France Inter vous parle en direct de Londres.
Et pour l'instant, il est 16h07, l'heure de Carrefour de l'Odéon, Frédéric L'Odéon.
Bonjour à tous. Sur les ondes françaises de la BBC, la campagne du V commence le 22 mars 1941 en soirée par la diffusion d'un slogan V. C'est-à-dire que la 5e symphonie de Beethoven convient parfaitement puisque les trois notes courtes et la longue qui vient en morse, c'est un V, tout simplement, le V de la victoire. Donc, c'est un symbole visuel tout simple. On peut le marquer à la craie avec un rouge à lèvres dans le dos de l'occupant. On peut marquer au couteau une voiture allemande. Et cette grande campagne du V va proliférer, on peut dire. C'est un moyen extraordinaire. Même s'il y a Verboten, le mot allemand pour interdit, on peut entourer le V. Il y a des aviateurs qui font des V avec de la fumée dans le ciel. Des conducteurs de locomotives qui entrent en gare en faisant qui lance la vapeur comme ça quatre fois, et ce V va devenir le symbole, je l'ai dit, de la résistance. Et en musique, la 5e symphonie, qui était déjà célébrissime, va le devenir encore plus, bien sûr, à cause de cette coïncidence entre le V du Morse et le fameux motif de quatre notes. Nous allons entendre tout de suite une pièce anglaise de Sir Edward Elgar, dirigée par un autre sir, mais qui était hongrois au départ, Georg Scholti. Scholti, c'était un magnifique chef d'orchestre dont la carrière a été entravée. Il a dirigé à l'opéra de Budapest en 1938. Il a tenté sa chance parce qu'on ne donnait jamais de place à un juif à cette époque-là, mais il est allé voir le directeur et le directeur a cédé. Il lui a dit le 11 mars de cette année terrible, ce moment de 1938, vous allez diriger les Noces de Figaro. Alors Scholti dit, c'était la première fois et pourtant tout se passait assez bien, mais après l'entracte, le chanteur qui jouait le rôle du comte, le baryton, m'a horrifié en faisant une faute après l'autre. Ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi. Pendant l'entracte, les journaux du soir de Budapest avaient paru, annonçant que les soldats d'Hitler avaient occupé Vienne. C'était le jour de l'Anschluss, de l'annexion. Le baryton était juif, on lui avait annoncé la nouvelle, mais personne ne m'avait informé. Il n'arrivait pas à se maîtriser. Alors je savais désormais qu'il fallait partir pour les États-Unis, et je me suis rendu avant à Lucerne pour une semaine.